L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission en direct et en public, en direct du studio 105 de la Maison de la Radio, émission au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser à l'économie et notamment à la question de savoir si ça va mieux ou comment ça va mieux ou si ça ne va pas mieux. Le 14 avril dernier, en effet, François Hollande annonçait dans l'émission Dialogue citoyen de France 2 que notre pays allait mieux et particulièrement sa situation économique. Oui, ça va mieux, affirmait le président. Il y a plus de croissance, moins de déficit, moins d'impôts, plus de compétitivité, plus de marge pour les entreprises et plus de pouvoir d'achat pour les salariés. Cette semaine, alors que la contestation de la loi travail demeure vive et que les affrontements entre groupes organisés et policiers se multiplient et s'aggravent, un sondage de l'IFOP révélait que l'optimisme du président se heurtait à l'incrédulité de 86% des Français pour qui ça ne va pas mieux. La croissance de l'économie française a sans doute progressé au premier trimestre de 2016, l'INSEE faisant état en première estimation d'une hausse de 0,5% du PIB entre janvier et mars et confirmant celle de 0,3% enregistrée au dernier trimestre de 2015. Le gouvernement a prévu une augmentation du PIB d'1,5% pour 2016 et 2017. Cette croissance positive est due à une progression de la demande intérieure, principalement liée à une hausse de 1,2% de la consommation des ménages pendant le dernier trimestre, soit la plus forte augmentation depuis 2004. L'investissement des entreprises s'est accru de 1,6%, dépassant en valeur absolue le record du premier trimestre de 2008 avant la crise, ce qui confirmerait la solidité de la reprise. Jeudi, l'INSEE annonçait un taux de chômage de 9,9% en France métropolitaine pour le premier trimestre de cette année, soit un effectif stable par rapport au dernier trimestre de 2015. Cependant, cette lecture positive omet le constat d'une contribution négative du commerce extérieur au PIB pour le troisième trimestre consécutif, causée par une chute des exportations et une hausse des importations. À cela s'ajoute une baisse continue de l'investissement des ménages depuis 3 ans et une incertitude quant au maintien de la progression de la consommation des mêmes ménages pour les trimestres à venir. La croissance de la France est par ailleurs plus basse que la croissance moyenne de la zone euro qui s'établit au premier trimestre de 2016 à 0,6%. Au début du mois, la Commission européenne a révisé à la hausse ses pronostics pour notre pays, ses prévisions, tout comme celles du FMI, demeurant inférieures à celles du gouvernement. Sur cette question, Marc-Olivier Padis.
Oui, dans un premier temps, quand on entend le président dire que ça va mieux, on est un peu inquiet, on a l'impression, on se demande s'il n'a pas perdu le contact avec le réel, on comprend que c'est quelque chose de difficile à entendre, on se demande s'il parle de la pluviométrie ou vraiment de la situation de l'économie française, mais en fait, sans dire que tout va bien, il y a un certain nombre de motifs d'optimisme relatif qu'on a tendance à minimiser en France classiquement. Donc si on remet en perspective depuis la crise de 2008, que s'est-il passé ? Ce qu'on a vu, c'est que bien sûr, comme tous nos partenaires européens et partenaires de la zone euro, nous avons connu un recul de la richesse française et suivi d'une reprise. Ce recul en France, par rapport aux autres pays, il a été, heureusement, relativement plus faible. Et la reprise, malheureusement, est plus timide. Donc on a une courbe qui est plus plate que dans le reste de l'Europe. Et en fait, on pourrait dire, pour résumer, que la trajectoire française, c'est un peu le contraire d'un traitement de choc. C'est-à-dire, en général, un traitement de choc, c'est justement ce qu'ont connu les pays du Sud, avec des indicateurs qui plongent, et puis des reprises assez vigoureuses. Nous sommes plutôt dans quelque chose d'assez modéré. Et c'est bien clair que c'est une stratégie qui correspond complètement au profil de François Hollande. Quelles que soient les raisons pour lesquelles les électeurs l'ont élu, il y a dans sa personnalité, sa manière de faire, quelque chose qui montre bien qu'il est contre. Ce n'est pas de lui qu'il faut attendre un traitement de choc. Et d'ailleurs, je pense qu'il a raison de considérer que ce n'est pas ce qui convient à la France comme stratégie économique. On pense à tous les programmes que font paraître actuellement les candidats pour les primaires de la droite, qui promettent toutes sortes de mesures absolument radicales, de thérapie de choc, etc. Je pense que pour des raisons historiques, sociologiques, institutionnelles aussi, ce n'est pas la stratégie qui convient à la France. Il suffit de voir le phénomène de la loi El Khomri. Dès qu'il y a l'amorce d'un passage en force, il y a réaction, refus, rejet, blocage. Bon. Alors, revenons sur les chiffres que vous avez cités. Un léger mieux pour la croissance, une faible inflation, une augmentation du pouvoir d'achat et de la consommation des ménages. Donc, des perspectives qui s'améliorent. Mais le meilleur indicateur, c'est celui de la bonne orientation de l'investissement des entreprises, vous l'avez dit, qui retrouve en valeur absolue le niveau d'avant la crise. Donc, c'est quand même un signal tout à fait positif, notamment pour le secteur manufacturier. Pourquoi est-ce que l'investissement des entreprises s'améliore? Parce que le taux de marge des entreprises s'est redressé en 2015, et donc les entreprises peuvent mieux financer leurs projets. Le financement externe est aussi facilité parallèlement par le bas niveau des taux d'intérêt facilité par la politique de la BCE. Et puis, il y a eu un dispositif dont on a très peu parlé, qui a été très peu aperçu, qui vient d'être prolongé pour un an, de suramortissement des dépenses d'investissement productif pour les entreprises. Ça veut dire qu'elles peuvent inscrire dans leur compte 140% en amortissement de la dépense effectuée. Donc au total, tout ça montre qu'il y a une validation de la ligne suivie avec constance par le président de la République depuis l'été 2002. Et il faut bien dire, nous sommes analystes, donc nous pouvons balancer le pour et le contre, etc. Un responsable politique qui doit jouer sur les anticipations de l'économie. L'économie, c'est essentiellement l'anticipation. Et donc, il essaye aussi d'amplifier le mouvement en donnant une anticipation plus favorable. Alors, il y a beaucoup de points qui restent très négatifs. Les déficits qui reculent trop lentement. Les exportations, vous avez dit, qui sont trop faibles. Cela dit, la France a mis un terme au recul des parts de marché à l'étranger, ce qui est quand même un point très important. Mais bien sûr, le gros point noir, c'est le chômage. C'est le mal français. Il y a un chômage de longue durée. Et ce léger mieux de l'économie mettra très longtemps à avoir des effets positifs sur le chômage. Un dernier mot. Quand on interroge les Français sur la question de savoir s'ils trouvent que la situation va mieux, bien sûr, ils disent plutôt non. À 80%, ils jugent que le bilan économique est négatif. Mais seulement 24% des Français pensent que la situation serait meilleure avec le parti Les Républicains au pouvoir.
Sylvie Goffman.
Alors, ça va mieux. C'est une formule intéressante à analyser en termes de marketing politique. Ça va mieux, ça veut pas dire ça va bien, ça veut pas dire on est guéri, ça veut pas dire non plus je vais mieux. Ça va mieux. Donc, je suppose que cette formule a été très étudiée par les experts de la communication. Mais c'est une formule à double tranchant, évidemment. C'est un peu comme le président normal ou l'inversion de la courbe du chômage. Si ça va mieux, si ça s'imprime, comme on dit, dans les esprits des électeurs, je vois bien l'objectif, c'est d'essayer de combattre ce que François Hollande appelle lui-même cette noirceur ambiante, ce négativisme qui s'est vraiment implanté dans tous nos esprits. Voilà, donc s'il y arrive, bravo. Mais ça peut aussi avoir un effet boomerang qui serait à ce moment-là absolument dévastateur. Donc, on verra. Ce qui est intéressant, alors, Marc-Olivier a cité une étude d'opinion. J'en ai vu une autre, je crois, qui était aussi mentionnée par Europe 1 le jour où ils ont reçu le président de la République. Pour 86% des Français, ça ne va pas mieux en général, c'est-à-dire ça ne va pas mieux. mais pour 51%, ça va mieux pour moi. Donc, je vais mieux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces 51%, il y a 60% de jeunes, ce qui est assez étonnant vu la persistance du chômage chez les jeunes. Donc voilà, tout ça va être étudié. Mais je pense que c'est un pari qui risque de revenir en boomerang. Alors, comment est-ce que ça va mieux ? Il y a deux façons de voir les choses. Il y a en dynamique et il y a en valeur absolue. En dynamique, oui, c'est vrai. Vous avez cité plusieurs indicateurs qui sont très importants. Et effectivement, ça va plutôt mieux, même si le chômage reste un énorme point noir, puisqu'on a toujours ces 600 000 chômeurs en plus. Je crois que c'est 22 dans la catégorie A, ça fait 22% de plus depuis 2012. Bon, on peut rappeler toujours qu'entre 2007 et 2011, il y en a eu 26% en plus. Mais donc, si on parle des perceptions, en plus de la vie quotidienne, ça reste quelque chose d'un élément négatif très fort. En termes d'indicateurs importants, ça va mieux. Si on prend les niveaux, on part de très loin. Il faut regarder les dégâts qui ont été infligés depuis la crise de 2008. C'est une dégradation considérable du tissu productif français, en particulier dans l'industrie, un chômage de longue durée quasiment structurel. Et donc, on a affaire à un défi historique dans l'économie. Et je crois que la dimension, justement, historique, la gravité, n'a pas été assez expliquée aux Français. Elle a peut-être même été sous-estimée, d'ailleurs. C'est une théorie qui apparaît quand on lit, je vais faire un petit peu de publicité pour mon journal, je le fais pas souvent, mais il y a un très bon, on a publié ce week-end un très bon article sur le témoignage de plusieurs ministres et secrétaires d'État qui ont quitté le gouvernement. Et on voit bien dans ce qu'ils racontent, ce que Thomas Vider leur a écrit après s'être entretenu avec eux, c'est que il y a effectivement ce déficit dans l'équipe gouvernementale depuis le début, d'explications, de vraies discussions de fond sur on est en présence d'une crise très profonde, comment est-ce qu'on fait, quelles sont les vraies stratégies pour l'affronter. Voilà. Donc, du coup, quand on dit ça va mieux, c'est un peu léger comme formulation, eu égard à l'importance du défi qu'il faut relever. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu comme le président normal, c'est pas à la hauteur du défi.
Oui, il y a une expression québécoise qui pourrait aussi faire son apparition dans le vocabulaire politique français qui est « ça va pas pire ».
C'est pas pire, oui. C'est...
François Bujon de l'Étang.
Oui, c'est pas pire. Cette transition québécoise me convient parce que justement, je voulais dire un mot à ce sujet. Écoutez, Sylvie a très bien dit, c'est une formule, n'est-ce pas ? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une formule, mais au-delà de la formule, dire que ça va mieux, c'est artificiel, c'est discutable. Et dans une certaine mesure, c'est inaudible, au fond. C'est artificiel parce que, pour toutes les raisons que vous avez très bien dites, c'est une formule, c'est de la com, comme on dit de nos jours. C'est une formule trouvée par les communicants. En plus, c'est une offensive, on le sent bien, qui est destinée à justifier une nouvelle candidature. La courbe du chômage ne s'est pas inversée, même si elle a montré quelques timides signes d'amélioration récemment. Mais l'idée que ça va mieux peut se substituer à l'inversion de la courbe du chômage. Et on sent bien l'orchestration de tout cela. Monsieur Moscovici, trois jours plus tard, comme par hasard, sort de la commission de Bruxelles pour donner des chiffres plutôt positifs sur l'endettement public de la France. Donc voilà, c'est la volonté du président de la République, c'est comme l'anaphore au fond, c'est comme l'inversion de la courbe du chômage. Il s'agit de trouver un slogan et d'interpeller. En outre, Sylvie l'a dit aussi, c'est ambigu, ça va mieux. Parce que ça va mieux par rapport à quoi ? Par rapport à 2012 ? Par rapport à la façon dont ça allait l'année dernière, par rapport à nos voisins, c'est pas vrai par rapport à nos voisins. Les chiffres, par exemple, de l'amélioration de la croissance dans la moyenne de la zone euro sont supérieurs à ce qu'ils sont en France. Alors, ça laisse place à toutes les interprétations, ça permet de mettre l'action du gouvernement en perspective plutôt que de se focaliser sur les difficultés du jour, on le comprend bien, et c'est un effort pour jouer sur le temps long. Donc voilà. Mais c'est discutable, parce que tous les chiffres sont discutables. N'importe quel économiste le sait. Les chiffres qu'a donné le président de la République pour justifier ce jugement sont ceux que vous avez rappelés. Mais il y en a d'autres qui ne vont pas bien et que, bien entendu, il n'a pas évoqué. L'investissement des ménages, effectivement, qui demeure un des points noirs dans notre économie. Le commerce extérieur, qui, malgré tous les facteurs exogènes qui permettraient d'espérer une amélioration, ne s'améliore pas. Pas vraiment. Et puis, le président ne dit pas dans quelle mesure les facteurs exogènes ont contribué à cette relative amélioration. Et les facteurs exogènes, c'est ceux qui ne viennent pas de l'action du gouvernement. C'est les taux d'intérêt qui dépendent largement de l'action des banques centrales. C'est le prix du baril de pétrole qui aide évidemment beaucoup nos exportations et la consommation des ménages. Et c'est le taux de change de l'euro par rapport au dollar. Et tout ça est pour beaucoup dans l'amélioration relative de la croissance. Alors, c'est discutable, mais on ne va pas entrer dans une polémique avec le président de la République, ça n'aurait aucun sens et on va laisser cette querelle aux économistes qui trouvent toujours le moyen d'avoir des opinions divergentes. Et puis c'est inaudible, je trouve en plus. C'est inaudible. Alors c'est là que je reviens aux Québécois pour des raisons évidentes. Les météorologues ont inventé une formule qui est le ressenti. On applique à la température le correctif du ce que les Québécois appellent le facteur 20, le windchill factor, comme disent les Anglais. Et le ressenti des Français, ça n'est pas que ça va mieux. C'est ce que montrent effectivement les sondages. La parole présidentielle, de toute façon, est dévalorisée, nous le savons. Les chiffres de l'audience de l'émission dans laquelle le président de la République a porté ce diagnostic en témoignent. Le taux d'écoute était faible et on a l'impression très souvent que la communication présidentielle tourne à vide et que la parole présidentielle n'imprime plus. Alors, voilà, on peut pas dire que ça va mieux quand on voit ce qui se passe dans les rues, les manifestations, la loi El Khomri, l'agitation syndicale, la SNCF, n'en jetez plus. Effectivement, Philippe, je m'arrête, mais dire que ça va mieux, on a un peu envie de dire merci, docteur Coué.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, alors, je ne sais pas ce qui est tombé sur la tête de Marc-Olivier, mais cet optimisme me paraît extraordinaire. Je crois que même Thierry Pech, il n'est pas là, donc on ne peut pas lui savoir ce qu'il en pense, mais ne serait pas aussi optimiste. En tout cas, vous êtes, cher ami, beaucoup plus dynamique dans l'optimisme que les membres du gouvernement et que le président Hollande lui-même, qui s'avance quand même, comme toujours avec lui, cœur sec et main tremblante vers l'avenir. Donc on est là, ce portrait que vous avez fait me paraît saisissant. D'abord, ce qui me paraît fondamental dans cette affaire, c'est que le président tombe en plein dans le syndrome de Chanteclerc. Chanteclerc, le célèbre coq qui, chaque matin, entonne son hymne favori pour saluer le fait que le soleil lui obéit en se levant. Et en réalité, la levée du jour, ce pauvre coq de Chanteclerc n'y est pas pour grand-chose. Et il y a donc quelque chose d'emblée qui est gênant. Nous sommes en face d'une évolution cyclique indiscutable. Ce n'est pas la France qui va mieux, c'est le cycle qui va mieux pour un certain temps. Et on a une espèce d'OPA sur ce cycle par le président. D'ailleurs, il en est conscient. Ce qui est bien avec François Hollande, c'est qu'il dit toujours... il est toujours au second degré, il est toujours lui-même dans la communication. Par exemple, il avait dit, quand ça allait mal au point de vue ordre public, il pourrait le redire maintenant, il n'a pas dit « la France a besoin d'ordre », il a dit « la France a besoin d'entendre un discours d'autorité ». C'était, je crois, à Aix qu'il avait dit cela. C'est très intéressant, c'était au second degré. Il disait le discours qu'il fallait que la France entende, mais il ne disait pas l'action qu'il allait mener. Et là, il est formidable parce qu'il a fait la théorie de la méthode Coué. Il dit « ce n'est pas en laissant penser au pays que tout va mal qu'on arrive à lui donner confiance ». C'est la définition exacte de la méthode Coué. Il s'agit de dire que ça va bien en formulant l'espoir. C'est pas d'ailleurs une méthode idiote complètement. En formulant l'espoir que cet énoncé suffira à produire des résultats. Donc je crois qu'il est significatif. Or là, en l'occurrence, il est évident que nous sommes en face d'une situation tout à fait précise, c'est-à-dire un retournement du cycle. Mon ami Jean-Marc Daniel a montré ça d'une façon absolument limpide en expliquant que d'abord, il a rappelé quelque chose que j'ai souvent dit à cette antenne, et je suis heureux de voir qu'un grand économiste dit quelque chose qui rejoint le très piètre économiste que je suis, ou non-économiste que je suis, à savoir que le traité européen est un traité qui introduit le TSCG, le traité sur la gouvernance et la coordination, est un traité qui introduit le cycle. Et il a raison, il y a des cycles en économie, et nous sommes là dans une inversion du cycle, et cette inversion, non seulement elle était prévisible, mais il est peu croyable qu'elle ait lieu si tard et qu'elle soit si limitée. Qu'elle ait lieu si tard. Alors, Marc-Olivier a dit quelque chose qui est juste, à savoir qu'effectivement, on arrive plus... Non, mais vous dites plein de choses justes. Je veux dire, à la fin, je dirai du bien de quelque chose que vous avez dit. Ne vous inquiétez pas.
Si la fin pouvait arriver sans trop tarder, bon. On serait content, comme Marc-Olivier, d'entendre le bien qu'il pense.
Je peux aussi me prévenir à l'émission, parce que si à chaque fois que je suis au point numéro 1 de mon exposé, vous me dites qu'il faut que j'arrête, je peux arrêter plus vite encore.
C'est un point numéro 1 qui a une tendance à s'étendre.
Et deuxième, donc on est dans cette situation où effectivement, quand on regarde les cycles précisément, on s'aperçoit que tout cela est complètement est très précis. Il y a effectivement un peu plus de, enfin, disons pour dire les choses, tout le monde l'a dit, c'est un peu mieux qu'avant et c'est beaucoup moins bien qu'ailleurs. C'est un peu mieux qu'avant et la comparaison avec Sarkozy est abusive. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut de Sarkozy, mais la situation qu'il a eu à gérer au moment de la crise n'est absolument pas comparable. Vous pouvez comparer à Chirac, sans doute, mais vous ne pouvez pas comparer avec Sarkozy. Et là, on voit bien que, en revanche, sur les choses fondamentales, eh bien, ça ne se présente pas bien. Alors, moi, j'ai plein de choses à dire, mais je ne vais pas les dire. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que non seulement... François Hollande est atteint du syndrome de champ de clair, mais qu'il est atteint du syndrome de champ de faux. Parce que, en réalité, ça ne va mieux que très, très conjoncturellement. Nous sommes les causes, ce sont, Moscovici hier formule ça très bien, mais en tirant des conclusions, à mon avis, abusives. Il dit, les vents favorables sont déjà en train de retomber. Les vents favorables, c'est le dollar, le prix du pétrole, et les taux d'intérêt. D'ailleurs, il dit à juste titre, enfin, on remarque à juste titre, Mathilde Lemoine en faisait l'observation l'autre jour à juste titre, que l'une des grandes causes en termes de politique économique de certains mieux, c'est la politique de Draghi. On peut dire qu'elle est dangereuse, comme le dit Jacques de la Rosière, c'est un autre problème. Mais en tout cas, l'effet conjoncturel est massif sur la désépargne au profit de la consommation et de l'investissement, et sur l'investissement immobilier. Bon. Mais au-delà de ça, on voit bien que ce cycle s'épuise, que nous allons avoir un retournement très rapide. Alors, il y a une fenêtre de tir qui se trouve opportunément être dans le créneau présidentiel de l'année prochaine. Et deuxièmement, je crois que ce qui ne va pas, c'est que les gens sentent l'imposture. Quand, je cite encore François Hollande, quand François Hollande dit cette phrase, qui est vraiment une antiphrase de son règne, « Je préfère qu'on garde de moi l'idée d'un président qui a fait des réformes, même impopulaires, plutôt que celle d'un président qui n'aurait rien fait. Il est clair que l'image qu'on gardera de lui, c'est celle-là, et là, je rends les armes à Marc-Olivier. Je crois qu'effectivement, il y a un atout dans le jeu de Hollande, qui est non pas le fait que la droite... qui est tout simplement qu'il défend... le conservatisme. Et nous voyons bien qu'en France, ceux qui disent « il ne faut rien changer », les choses comme elles vont, comme dirait Louis XV, dureront bien autant que nous, ceux-là sont effectivement nombreux. Et c'est là-dessus que le président surfe. Je crois toutefois qu'il est plus tard qu'il ne le croit et qu'en réalité, les Français sont encore plus inquiets que conservateurs.
Sylvie Kaufmann.
Oui, alors, on parle d'économie, on parle aussi de politique. Il faut pas, on va pas non plus reprocher à François Hollande de se féliciter de bonnes nouvelles. Ça serait un petit peu suicidaire, je crois. Il y a quand même une chose, très positive dans ce qui a été fait. Je vais soutenir aussi Marc-Olivier Padis. C'est le pacte de responsabilité et surtout le CICE, hein, crédit d'impôt et de compétitivité à l'exportation, je crois. Voilà, il y a eu cette prise de conscience tardive, mais qui a été faite quand même à l'issue du rapport Gallois en 2012. Il y a eu 20 milliards, je crois, de crédits d'impôts qui ont été accordés, puis 10 milliards encore d'impôts de baisse des impôts sur les sociétés. Et ce qui veut dire qu'il y a eu quand même une vraie politique économique à l'égard des entreprises. 41 milliards d'euros transférés, ça n'est pas rien. Le problème, c'est qu'il fallait le financer, il a fallu en même temps redresser les finances publiques, donc il y a eu une grosse ponction sur les revenus des ménages. Voilà, tout ça est effectivement assez difficile à expliquer, à lire, mais je crois que globalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même eu un redressement des marges des entreprises grâce au CICE. Ça, c'est le préalable à l'investissement et à l'embauche, et c'est une évolution quand même positive.
Marc-Olivier Panis.
Juste un mot pour dire sur la question du cycle. Effectivement, c'est un argument de dire la France va mieux, mais on fait mieux ailleurs. Le cycle est favorable, le dollar, la baisse du pétrole, les taux d'intérêt bas. Le critère pour observer ça, effectivement, c'est la force exportatrice de la France. C'est-à-dire, est-ce que la France est capable d'exporter ? Alors, la stratégie menée par le gouvernement a permis de réduire le coût du travail en France. Et même cette fois-ci, on est passé sous le niveau de l'Allemagne. On sait que ces dernières années, dans les 10 dernières années, il y a eu une stratégie allemande de réduire le coût du travail qui leur a permis de renforcer encore plus leur pouvoir exportateur qui est très très fort. Donc la France, maintenant, a un coût du travail qui est passé en dessous de celui de l'Allemagne, ce qui fait qu'elle arrête de perdre des parts de marché à l'extérieur, ce qui est très très important parce que si on n'est pas capable d'exporter, on n'est pas capable de profiter au mieux de nos capacités, de l'amélioration du cycle. Mais l'amélioration, là, ne suffit pas, effectivement, parce que la balance extérieure est toujours négative et c'est certain, les vents favorables ne resteront peut-être pas toujours, même si pour le pétrole, ça s'est prolongé plus que ce qu'on pensait au départ. Et donc, la situation, effectivement, reste fragile, d'autant plus que le consensus interne en France sur la validité de cette stratégie, y compris à gauche, est faible. Ça, c'est une de nos difficultés, c'est que la ligne qu'a résumée Sylvie a été improvisée une fois arrivée au pouvoir et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un débat public suffisamment large au cours de la campagne présidentielle. Et ensuite, elle est peu défendue, elle est peu partagée. Mais ça fait partie aussi de nos traditions politiques. On a du mal à construire des consensus forts sur les stratégies nationales.
François Bujon de l'Étang.
C'est sûr, c'est évident. Je ne peux que vous approuver sur ce point. Non, je reviens sur la question de rythme, parce que je crois que c'est tout à fait important. Effectivement, ça va mieux pour tout le monde. Au fond, si vous regardez l'Europe, vous avez raison, Jean-Louis, c'est un cycle, et c'est un cycle qui est lent, qui se retourne. Les choses se sont améliorées de façon beaucoup plus spectaculaire dans d'autres pays que dans le nôtre. En Espagne, la politique de Monsieur Rajoy, qui était une politique de choc, a donné des vrais résultat. En Italie, la réforme du code du travail et des institutions par M. Renzi donne de bons résultats. Chez nous, tout est plus lent et tout est plus homéopathique. Alors, c'est vrai, il y a eu des améliorations sur les marges des entreprises, il y a eu le crédit compétitivité emploi, mais tout ceci est terriblement homéopathique dans un monde qui, lui, ne nous attend pas. Et en réalité, ça va mieux. Et comme dit le président de la République, j'ai réussi à moderniser la France en protégeant son modèle social, ça implique une lenteur dans l'action et des concessions aux forces du conservatisme qui sont incompatibles avec l'autre affirmation qu'il fait en se comparant au chancelier Schröder.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Sylvie. J'ai moi-même ici, j'ai toujours dit que j'aurais voté, si j'avais été parlementaire, le CICE, j'aurais voté le contrat emploi responsabilité et j'aurais voté la loi El Khomri si elle m'avait été présentée en tant que parlementaire dans une version à peu près acceptable, qui est assez proche de la version initiale. Donc je vois bien ces efforts. Simplement, je crois que le problème de la musique hollandaise, c'est que c'est un 45 tours, c'est une piste sur laquelle il a gravé deux musiques. Et que, notamment en matière d'entreprise, tout ce qui a été donné et qui est très bon, et Marc-Olivier a raison de citer l'affaire de l'investissement qui était le type même du cadeau fait à l'entreprise aux yeux dans un logiciel de gauche, mais en même temps, ça a été en fait une compensation à peu près égale, pour finir, ce qui a été pris aux entreprises, qui a été massif au début, plus les cadres, les classes moyennes supérieures qui ont été sérieusement massacrées sur le plan fiscal. Alors je sais bien que la devise c'est faire et défaire faire, c'est encore travailler, mais nous sommes bien là. Deuxièmement, sur les réformes de fond, je crois que le fait, ce que vous citez sur la balance commerciale, c'est tout à fait significatif. Qu'est-ce qu'il y a dans la balance commerciale ? Il y a une nouvelle opportunité, c'est-à-dire les vents favorables, la baisse de l'euro, la baisse du coût du pétrole, etc., donc la réduction des importations énergétiques. Et il y a également, et vous avez raison de le souligner, Marc-Olivier, la stabilisation des parts d'exportation. Mais en même temps, on voit bien qu'il reste que le marché français est fondamentalement inadapté à la demande et que quand on relance par la consommation, ce qui se fait très modestement, mais ce qui se fait aujourd'hui, on aggrave les déficits commerciaux. Donc nous restons structurellement mal positionnés. Et enfin, je terminerai par là, je dirais que Hollande a peut-être fait quelques cadeaux aux entreprises, de même que Chirac faisait des cadeaux en termes fiscaux, mais il ne s'est pas attaqué aux 5 folles du logis. Les 5 folles du logis en France, c'est le régime des retraites qui s'est amélioré, mais à cause de la réforme Sarkozy que Hollande a récusé, sans la détruire complètement, le logement, la formation, l'assurance maladie. Je crois que j'en ai oublié peut-être un. Oui. Eh bien, ça fait rien, ça sera pour la prochaine fois. Ces grands blocs de dépenses publiques.
Revenez la semaine prochaine, vous connaîtrez la cinquième folle.
Le trou de l'assurance maladie, je l'ai dit. Oui, enfin, écoutez.
Ça vous en fait déjà 4.
Nos auditeurs compléteront eux-mêmes les carences.
Avant que nous passions au sujet suivant, simplement, je vous signale, je vous rappelle pour ceux d'entre vous qui le sauraient déjà, que demain, le président de la République sera dans la fabrique de l'histoire avec Emmanuel Laurentin, et il parlera de l'importance de l'histoire dans l'exercice de ses fonctions, et je crois aussi dans sa vie personnelle. C'était le chômage que Jean-Louis pendant j'avais oublié, excusez du peu, si j'ose
oui,
dire.
Oui, pour un soutien d'Alain Juppé qui dit que son ennemi c'est le chômage, c'est embêtant.
Je vous propose maintenant que nous nous intéressions à la proximité du vote britannique sur le maintien ou le retrait de l'Union européenne, autrement dit le Brexit. Après les accords qu'il a signés en février dernier avec le Conseil européen, le Premier ministre britannique David Cameron a pris la tête des partisans du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union. L'élection récente d'un maire travailliste anti-Brexit, Sadiq Khan, a constitué pour lui un renfort appréciable. À la tête du parti adverse, l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, sillonne le pays pour convaincre les indécis. Les derniers sondages donnent une avance claire aux partisans du maintien, 55%, mais le taux de participation demeure incertain et les pro-Brexit paraissent plus faciles à mobiliser. Les grandes institutions multilatérales, le FMI, l'OCDE, ainsi que les centres financiers comme la City, s'ils restent la plupart du temps en retrait pour ne pas accréditer la thèse d'une oligarchie pro-européenne, ont tous publié des études ou pris position sur les risques d'un isolement du Royaume-Uni. Le président des États-Unis, Barack Obama, a déclaré fin avril, je cite, « Le Royaume-Uni est à son meilleur quand il aide à diriger une Europe forte ». Le Trésor britannique a calculé que le Brexit coûterait 5 400 € en moyenne à chaque foyer d'ici 2030. Le G7 réuni hier au Japon a estimé que le Royaume-Uni aurait le plus grand mal à négocier un nouvel accord commercial avec l'Union et que l'économie mondiale serait fragilisée. Tandis que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a confirmé qu'il serait intraitable dans ce cas de figure. Si les arguments économiques ont d'abord constitué le principal terreau des débats, la bataille s'est depuis largement ouverte aux arguments identitaires et historiques. Les sondages montrent que le contrôle de l'immigration, 250 000 Européens immigrent chaque année au Royaume-Uni, est le deuxième moteur d'engagement des partisans du Brexit. Boris Johnson a comparé dimanche dernier l'Union européenne au projet de création d'un super-État par Hitler, et David Cameron, de son côté, a affirmé que l'État islamique se réjouirait d'une sortie du Royaume-Uni car elle affaiblirait la lutte commune de l'Europe contre le terrorisme. Enfin, Nicola Sturgeon, la première ministre d'une Écosse majoritairement hostile au Brexit, avance qu'elle pourrait organiser un nouveau référendum après celui de septembre 2014 pour obtenir l'indépendance en cas de sortie de l'Union européenne. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange.
Oui, c'est évidemment tout à fait exclu à ce stade qu'on fasse une prévision. Les sondages sont plutôt actuellement relativement favorables à ceux qui sont pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, mais ils sont très fragiles en raison en particulier de l'incertitude sur d'abord de la mobilité des intentions de vote et ensuite de l'incertitude sur le niveau de participation. Ce sont au Royaume-Uni les jeunes, à la différence de ce qui se passe en France, au Royaume-Uni comme en Espagne en 2005. Ce sont les jeunes qui sont les plus favorables au maintien dans le Royaume-Uni, dans l'Union européenne, et ce sont les vieux, à la différence de ce qui se passe en France, qui sont les plus hostiles. C'est d'ailleurs intéressant de voir que la perception de l'avenir par les générations n'est pas la même en France et dans une grande partie des autres pays européens. Mais donc on est dans l'incertitude. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'il est très clair que les intérêts sont du côté du maintien, la raison donc, sont du côté du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne et que les passions sont très favorables à la sortie. Alors, Pierre Asner a écrit un livre dans lequel il montre que les passions sont de plus en plus importantes par rapport, enfin, il montre plusieurs choses, mais notamment ça. Les passions sont de plus en plus fortes par rapport aux intérêts, donc par rapport à la raison. Il semble quand même que le peuple britannique soit assez rationnel, que actuellement l'irrationalité guette les partisans du Brexit, comme vous l'avez rappelé à travers la formule de Monsieur Boris Johnson. Et donc, la partie n'est pas perdue pour ceux qui veulent maintenir l'Union européenne, le Royaume-Uni dans l'Union européenne. Sur les conséquences, je dirais que les conséquences économiques, il faut distinguer les conséquences économiques et les conséquences politiques. Sur les conséquences économiques, tous les rapports montrent globalement que c'est plutôt plus mal pour les Britanniques de sortir de l'Union européenne. Mais que ce n'est pas non plus tellement catastrophique, tellement décisif, avec en plus le peu de réputation dont disposent les experts économiques actuellement, ce n'est pas si catastrophique que ça emporte une adhésion claire. Enfin, il est certain, quand on discute avec des élus, avec des chefs d'entreprise, qu'ils disent tous qu'il va y avoir une délocalisation à partir, en cas de Brexit, à partir du Royaume-Uni, tout ce qui exporte sur le continent européen va être tenté par la délocalisation. Quant à l'industrie financière, qui est la grande industrie, 8% du PIB au Royaume-Uni, on ne sait pas ce qu'elle deviendra, mais je vous rends attentif au paradoxe de cette industrie qui consiste à avoir des gens qui sont britanniques, qui gèrent de l'argent continental, qui financent avec cet argent continental des industries de l'économie et continentale, et qui le gèrent dans une monnaie qui n'est pas la leur, mais qui est celle du continent. Donc, alors, le degré d'offshorisme, si je puis dire, de la City est déjà très important. Il semble qu'elle dise qu'elle n'en veut pas. Sur le plan politique, et je dis ça en deux mots, sur le plan politique, je crois que la situation est très grave pour les Britanniques. Il y a une crise identitaire très profonde et qui risque d'être véritablement très, très difficile à gérer pour Cameron, non seulement vis-à-vis de l'Écosse, mais également vis-à-vis de l'Ulster et vis-à-vis du Pays de Galles. Sur le plan international, le Royaume-Uni n'a toujours pas soldé le grand dilemme analysé par Kissinger dans The World Restored, son analyse du Congrès de Vienne, dans lequel il dit que l'Angleterre hésite en permanence entre la stratégie de rapprochement du continent incarnée par Castlereagh et la stratégie de désengagement incarnée par Canning.
Marc-Olivier Padis
fait le choix.
Oui, là, s'il décidait de sortir de l'Union, il ferait un choix tout à fait radical et qui serait à l'inverse de celui qu'ils ont pris en rentrant finalement en 73 dans l'Union européenne. Alors, juste pour compléter, comme effectivement on ne sait pas, les indications de projet de vote sont pas très claires, ce qui fera la différence, ce sont les hésitants. Et les hésitants qui sont assez nombreux, je crois 15% des électeurs dans les dernières enquêtes que j'ai regardées, et probablement ces électeurs-là se décideront pour le moindre risque. Et donc chacun des camps essaye de montrer que le moindre risque est de son côté. Donc évidemment, les partisans du maintien disent que le moindre risque, c'est de rester au statu quo, de rester dans l'Europe, avec Cameron qui essaye de faire valoir qu'il a réorienté l'Europe. C'est beaucoup dire. Il a surtout obtenu, une fois de plus, des exemptions pour les Britanniques, mais il n'a rien réorienté du tout sur le fond. Et puis, les partisans du départ, eux, font valoir que le moindre risque, ce serait celui de la renégociation de la situation situation de la Grande-Bretagne par rapport à l'Europe. Alors là, l'argument est plus difficile à soutenir, parce que ça veut dire quoi ? Si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, il faut qu'elle elle perd d'un seul coup l'ensemble des traités, notamment des traités commerciaux, qui la lient à la fois aux pays européens, mais aussi au reste du monde. Et donc elle rentre, la Grande-Bretagne rentre, le Royaume-Uni même rentre dans une période d'incertitude très longue, puisqu'il faudra renégocier l'ensemble de ces traités commerciaux. Et donc les partisans du départ disent « mais on obtiendra forcément mieux » que ce qui est aujourd'hui. Ce qui est assez audacieux comme argument, parce que on ne voit pas comment un Royaume-Uni seul, isolé, plus insulaire que jamais, pourrait négocier avec la Chine, avec l'Amérique du Sud, avec l'ensemble États-Unis-Canada et même avec l'Union européenne, des traités commerciaux plus favorables que ceux qu'elle a aujourd'hui en pesant de l'intérieur de les négociations. D'autant plus que ces traités commerciaux sont quand même extrêmement vitaux pour ce pays, puisque l'Union européenne, c'est quand même 500 millions de personnes, 500 millions de consommateurs potentiellement, et que 45% des exportations britanniques se font vers l'Union. Donc c'est un chantier énorme qui serait à ouvrir, et il n'est pas du tout évident que les Britanniques s'en sortent aussi bien qu'ils le pensent.
Sylvie Kaufmann.
Jean-Louis parlait tout à l'heure d'irrationnel et je crois que une des grandes questions que pose ce débat, c'est celui de l'irrationalité qui marque beaucoup de nos débats actuels. Hein. C'est-à-dire, on peut se demander comment, avec le nombre et la qualité des gens qui sont, et des arguments qui sont dans le camp du Remain, hein, du maintien dans l'Union, du Royaume-Uni dans l'Union européenne, c'est-à-dire le Premier ministre britannique et une grande partie de son entourage, la direction du Labour, le patronat, la City, les universités, la presque totalité des dirigeants étrangers, même les Chinois, et plus tous les arguments rationnels que je ne reprendrai pas, mais qui vont dans le sens évident, qui vont dans le bon sens, celui du maintien. Comment est-ce que, malgré tout ça, le camp du Remain ne l'emporte pas haut la main ? Puisque, effectivement, je pense que les pronostics sont quand même très, très, très difficiles à faire à ce stade. Pour moi, c'est un autre symptôme. On a là un autre symptôme du grand malaise, de la colère qui caractérise nos démocraties en ce moment. Et je trouve qu'il y a un parallèle terrifiant à faire avec le Trumpisme. Et, Boris Johnson ressemble de plus en plus à Donald Trump, et pas seulement par son échevellement, si je puis dire, et un parallèle qu'on peut faire avec d'autres phénomènes en Europe en ce moment. Là, si on regardait dans les arguments des partisans du Brexit, c'était mieux avant. Avec le Commonwealth, on contrôlait les trois quarts du monde. L'immigration, c'est pas possible. On doit reprendre le contrôle de nos frontières, de notre avenir, etc. Qu'est-ce qu'on perçoit dans tout ce questionnement ? C'est bien, je crois, l'incapacité de faire face aux dislocations de la mondialisation. Il y a aussi, bien entendu, le malaise du projet européen, la faiblesse du problème du projet européen en ce moment et la difficulté de le défendre, mais on voit bien là toute la douleur qu'éprouve une grande partie de la population britannique à s'ajuster. Quand vous voyez que on cite, par exemple, certains citent dans le camp du Brexit l'exemple de Singapour. Ils disent, si on n'appartenait pas à l'Union européenne, on pourrait devenir Singapour. Mais j'ai beaucoup de respect pour la réussite de Singapour, mais pour un pays comme la Grande-Bretagne, qui a été un empire, qui est un pays très important maintenant, avec une économie formidable et des réussites quand même remarquables, vouloir avoir l'ambition maintenant d'être Singapour, c'est quand même un petit peu difficile à réaliser.
François Bujon de l'Étang.
Ouais, il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout ça, et le temps presse, donc on va s'en tenir à l'essentiel. Sur les incertitudes, je dirais simplement ceci. Les incertitudes, elles viennent très largement au fait que, d'abord, Ce sont toujours des surprises électorales qui sont venues du côté britannique, parce que les sondages britanniques sont notoirement peu fiables, que d'autre part, beaucoup des partisans du maintien dans l'Union européenne ne s'expriment pas, parce qu'ils ont peur de mettre le feu aux poudres. C'est le cas de tout le monde financier, de tout le monde de la City, par exemple, qui est massivement pour rester dans l'Union européenne, mais qui a très très peur d'allumer des réflexes populistes en faisant campagne. Donc on ne les entend pas, de même qu'on n'entend pas beaucoup les travaillistes. Le débat au fond est entre les conservateurs du Remain et ceux du Brexit, mais les travaillistes qui sont majoritairement en faveur du maintien dans l'Union ne s'expriment pas beaucoup non plus. Alors, Napoléon disait que c'est un peuple de boutiquiers, vous vous souvenez, on lui prête en tout cas ce jugement. Les boutiquiers font leur compte avant d'aller au marché. Et dans ce genre de référendum, les électeurs font leur compte. J'ai pour ma part le souvenir très vif du référendum sur la souveraineté au Québec, et il y a des similitudes entre les deux situations. Les Québécois ont fait leur compte et finalement ils ont voté de rester. Je pense personnellement que les Britanniques auront tendance à faire la même chose. Ça, c'est une première remarque. La seconde, c'est sur le débat lui-même. Le débat, il est extraordinairement britannique. Finalement, ce sont les Anglais qui se battent avec leurs propres fantômes, avec leur crise identitaire, car en effet, c'en est une et de première importance. Et les Européens n'interviennent pas du tout dans le débat. Ils se tiennent tapis sur leur continent en se gardant bien d'ajouter de l'huile sur le feu. Ils ne sont d'ailleurs pas indifférents à ce que sera le sort du référendum, le verdict du référendum, mais ils sont neutres. Ils se disent qu'on s'ajustera à la situation, quelle qu'elle soit, et que de toute façon, les Européens ne peuvent plus rien faire. Ce sont les Anglais qui doivent se débattre avec leurs propres problèmes. Alors le président Obama, lui, n'a pas eu les mêmes scrupules. Et quand il est allé au Royaume-Uni pour fêter les 90 ans de la reine, il a été au contraire extrêmement vif dans sa prédication. Il a dit que la Grande-Bretagne devait rester dans le marché commun, enfin dans l'Union européenne. Il a été très explicite dans ses mises en garde. Il n'a pas utilisé le moindre usage diplomatique. Et sur le problème qu'évoquait Marc-Olivier Padis de la renégociation d'accords commerciaux, il ne leur a pas envoyé dire que s'il sortait de l'Union européenne, eh bien, il leur faudrait faire la queue comme tout le monde et qu'il n'aurait aucune espèce de priorité de négociation avec les États-Unis. C'est tout à fait intéressant parce que ce rêve du special relationship entre la Grande-Bretagne et l'Amérique est véritablement un rêve britannique. On ne pouvait pas mieux crever ce ballon que ne l'a fait le président Obama en visitant le Royaume-Uni. L'autre jour, je dois dire que j'ai vécu 20 ans de ma vie en Amérique du Nord et que je n'ai jamais entendu un Américain parler du special relationship. C'est vraiment un fantasme britannique, puisque dès que vous mettez les pieds en Grande-Bretagne et que vous évoquez les États-Unis, on vous en parle. Mais c'est tout à fait une rue à sens unique. Obama, en ce sens, lui, n'a pas pratiqué la modération. Alors, au fond, il faut relativiser aussi tout cela. Si le défunt le regrettait, M. Couve de Murville était encore là, peut-être nous dirait-il, comme d'habitude, au fond, tout ceci n'a pas beaucoup d'importance. Si, ça en a une, mais ce n'est qu'une phase dans une histoire troublée entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il y a eu 73, il y a eu 75, il y a maintenant 2016, mais soyez assurés que si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, elle sera une nuisance épouvantable en cherchant par tous les moyens à nouer de nouvelles relations et à obtenir de nouveaux avantages, et que si elle ne sort pas mais qu'elle reste, elle continuera quand même à gigoter pour obtenir un traitement spécial comme elle l'a toujours fait. C'est un élément dont il faut être sûr. L'histoire ne sera pas terminée au soir du 23 juin. Alors, plus largement, c'est un aspect d'un problème plus général qui est le problème de la fragmentation de l'Europe. Et je crois que c'est bien comme ça que M. Obama l'a analysé. C'est la raison pour laquelle il craint la sortie du Royaume-Uni. Il craint la fragmentation de l'Europe, l'éclatement avec tout ce qui s'ensuit, l'Écosse, l'Irlande, la Catalogne, que sais-je. Et le problème de l'intégrité de l'Union européenne est un problème tout à fait important, de même que le problème de l'intégrité du Royaume-Uni en est un, et les deux sont quand même en jeu.
Marc-Olivier Padis.
Oui, non, très brièvement, François Bujon de l'Étang disait que les Européens sont neutres dans cette affaire, mais ils retiennent aussi leur respiration parce qu'ils savent que dans tous les cas de figure, l'impact sur l'Europe, quelle que soit l'issue du vote, sera important. Parce que si l'Angleterre, la Grande-Bretagne sort, alors évidemment là c'est un tremblement de terre, c'est la fin de cette idée d'une union sans cesse plus étroite. On voit que le processus est réversible et ce serait un choc général. Mais si Cameron remporte son pari et que c'est le Remain qui gagne, il y aura aussi un choc pour le reste de l'Europe. D'abord parce que Cameron reviendra très en force et, comme l'a dit François Bujon de l'Étang, il continuera à récriminer, à réclamer des choses. Et puis, on aura vu fonctionner ce système de chantage au départ et ça risque de donner des idées à d'autres.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, si je vous écoute, et je crois qu'on peut résumer la situation en disant jusqu'à présent, l'Angleterre avait un pied dedans et un pied dehors. Et demain, ce sera l'inverse.
Elle aura un pied dehors et un pied dedans, oui.
Sylvie Goffman.
Oui, vous parliez de fragmentation. Bien sûr, l'Union européenne existera, continuera d'exister, mais je crois que le risque de fragmentation est très important et nulle part ailleurs que Berlin est-il ressenti de manière aussi vive, parce que pour les Allemands, le Brexit pose quasiment une question existentielle. La construction européenne, c'est dans l'ADN de l'Allemagne de l'après-guerre, et je crois qu'on ressent vraiment là très profondément la menace du retrait, des conséquences d'un retrait britannique.
François Bouchard.
Non, mais le mot de la fin, c'est effectivement que les Britanniques sont partagés entre deux aspirations contradictoires. L'une qui est la célèbre phrase de Churchill, qui est entre l'Europe et le grand large, je choisirai toujours le grand large. Et l'autre, c'est la constante de l'histoire diplomatique britannique d'avoir toujours voulu contrôler ce qui se passe sur le continent et éviter que ne se monte sur le continent une alliance menaçante dont elle n'aurait pas le contrôle. Donc, tiraillée entre ces deux exigences contradictoires, la Grande-Bretagne va devoir choisir effectivement le 23 juin.
Et en plus, le grand large dit qu'il faut rester sur le continent. Alors ça complique tout.
J'hésite à dire le grand large est un cul-de-sac parce que géographiquement, c'est difficile à dire. Mais c'est pourtant vrai.
Oui, l'un d'entre vous, je crois que c'est Jean-Louis tout à l'heure, évoqué ou peut-être les deux, la rationalité du peuple britannique. On a quand même un peu de mal à voir du rationnel dans tout ça parce que, par exemple, l'une des raisons qu'on voit apparaître maintenant dans les sondages, l'une des raisons pour lesquelles un certain nombre de Britanniques sont favorables à la sortie, c'est la lutte contre l'immigration. Et s'ils sortent de l'Union européenne, ils vont voir immédiatement arriver tous les gens qui, aujourd'hui, hier et avant-hier, étaient à Calais dans l'idée de pouvoir venir chez eux.
Bah, ça c'est un argument électoral, mais ça n'est pas possible.
Je ne vois pas ce qui les en empêcherait, mais c'est comme le cinquième...
On ne peut pas laisser partir des gens qui ne sont pas en situation irrégulière du territoire national. Mais, comment voulez-vous faire? On laisse les passeurs organiser la chose, et là, c'est un appel d'air pour nous, c'est très mauvais pour nous aussi.
C'est simplement qu'ils passeront sans nous demander la permission. Mais cependant, nous sommes arrivés à la dernière séquence de cette émission, qui est la séquence des brèves. Je vais l'ouvrir en recommandant le livre de quelqu'un que nous avions reçu l'année dernière pour une des thématiques d'été, qui est la sociologue Irène Théry. Son livre paru dans la collection, dans l'excellente collection La République des idées, une collection qui est aux éditions du Seuil, et l'une des collections qui est une collection de récits, de reportages, de narrations, choses qui manquent quand même beaucoup dans la littérature et même aussi dans la presse française, aussi curieux que ça puisse paraître. Irène Théry publie donc un livre qui s'appelle « Mariage et filiation pour tous, sous-entendu une métamorphose inachevée ». Alors, Irène Théry a été partisane de ce mariage pour tous. Ça ne l'empêche nullement d'avoir les qualités que l'on cherche chez un sociologue, chez une sociologue en l'occurrence, c'est-à-dire d'abord la probité intellectuelle. Et je dirais qu'il y a deux question qu'elle pose et auxquelles elle apporte des éléments de réponse dans son livre, et qui fait que cette probité dont je viens de parler est dans tout le monde, ceux qui ont été partisans, ceux qui ont été adversaires et ceux qui ne savaient pas très bien, y trouveront leur compte. C'est la question, c'est d'abord, au fond, le débat a été escamoté et elle se propose de lui rendre tout son contenu. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui fait que cette transformation a eu lieu? Et au fond, sa réponse, c'est ce qui fait que la transformation a eu lieu. Ça n'est pas comme l'on crut, comme le craignent, comme l'on dit beaucoup des adversaires, le triomphe de l'individualisme. C'est le triomphe, ou en tout cas une avancée très considérable de l'égalité des sexes. Ça s'appelle donc le mariage et filiation pour tous, et c'est aux éditions du Seuil. François Bujon de l'Étang.
Je voudrais dire la sympathie que j'ai éprouvée pour un petit livre, un petit livre de Maël Renoir, qui s'appelle « Fragments d'une mémoire infinie » et qui est publié aux éditions Grasset. Maël Renoir est ce que le général de Gaulle appelait un normalien sachant écrire, qui a été la plume d'un homme politique célèbre jusqu'il y a peu de temps, et qui s'était déjà signalé il y a quelque temps par un petit livre intitulé « La réforme de l'opéra de Pékin ». Son livre est tout à fait original, il porte sur l'Internet, au fond. Et il n'y a pas tellement de livres qui réfléchissent à l'Internet et au bouleversement que celui-ci apporte dans nos vies. « Fragments d'une mémoire infinie », le titre rappelle évidemment Roland Barthes, par l'aspect fragmentaire, mais c'est une espèce de patinage artistique sur le thème général de l'Internet et de la mémoire globale que représente et que représentera dans l'avenir l'Internet. L'espèce d'étendue numérique infinie dans laquelle on pourra tout retrouver et où il sera difficile de se repérer. Ce n'est pas un livre construit, ce n'est pas un essai philosophique, c'est plutôt une espèce de zapping littéraire assez habile, qui recourt à la fois à l'évocation, à la nostalgie, à la citation, qui va parfois même jusqu'au pastiche. Il y a un chapitre qui est remarquablement imité de La Bruyère, par exemple, et que je vous recommande. Et le thème général reste quand même vertigineux, c'est l'idée que l'Internet représentera cette mémoire infinie dans laquelle tout le monde pourra tout retrouver et que, un peu comme la Stasi jadis en Europe de l'Est, elle enregistre tout ce que vous faites, tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez.
Sylvie Goffman.
Alors, dans la continuation de notre débat sur Brexit, je voudrais parler du livre qui sort ces jours-ci de Sylvie Goulard, qui est députée européenne, Goodbye Europe, dans la collection Café Voltaire chez Flammarion. C'est un beau coup de gueule, je dois dire, et qui fait du bien parce que la colère, justement, est trop d'un côté dans ce débat. Et Sylvie Goulard dénonce l'omerta des dirigeants européens qu'on a évoqué tout à l'heure. Effectivement, ce silence assourdissant d'Angela Merkel, de François Hollande et des autres qui ont préféré se taire face au Brexit au lieu d'invoquer justement la nécessité de relancer le projet européen.
Marc-Olivier Padis.
Oui, je ne recommande pas souvent des films, mais là, je voudrais recommander le film de la cinéaste Mia Hansenlove qui s'appelle L'Avenir, qui est un beau portrait de femme, une femme d'une cinquantaine d'années qui voit toute sa vie se réorganiser avec le décès de sa mère, le départ de son mari, les enfants qui deviennent plus grands. C'est étonnant, la maturité et l'intelligence d'une jeune cinéaste qui peut faire un portrait de femme d'une génération plus âgée. Alors, le personnage est magnifique, interprété par Isabelle Huppert. Et le scénario est très bien fait parce que dans les scénarios de cinéma, on attend tout de suite une nouvelle rencontre, un nouveau départ. C'est pas le cas ici, c'est plus l'amertume et la douceur de la vie, c'est très réussi.
Jean-Luc Bourlange.
Oui, je voudrais vous donner deux livres qui servent à gérer intellectuellement les deux grands problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est-à-dire la menace de Brexit et l'élection de Trump, éventuellement, hein. Et je voudrais donc vous recommander d'une part le rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2016, qui est, comme chaque année, la Fondation Schuman fait un état des lieux en Europe qui est toujours remarquable, avec les meilleurs spécialistes et les meilleures signatures, c'est ce qu'il y a de mieux. Et deuxièmement, sur les États-Unis, on sait que la question religieuse est fondamentale dans l'histoire des États-Unis. Nicole Bacharan a trouvé un moyen de la traiter autrement, parce que le sexe en Amérique, c'est le titre de son livre, le sexe, c'est l'autre façon de poser la question religieuse. Alors quand on voit l'importance de la sexualité dans la campagne de M. Trump, eh bien on se dit que le livre de Nicole Bacharan est un outil précieux pour comprendre quelque chose à un événement dont il faut bien reconnaître que nous ne le comprenons pas.
Je vous remercie. Nous avons maintenant rendez-vous avec Alain Kruger pour On ne parle pas la bouche pleine. Il reçoit pour la deuxième fois Bertrand Tavernier qui vient de montrer à Cannes un voyage à travers le cinéma français qui est un documentaire qui a eu un considérable succès, qui sortira à la rentrée. Bertrand Tavernier se souvient de Jean Gabin, de Claude Sautet, de Claude Chabrol, enfin bref, de quelques personnes qui savaient se tenir à table. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Adrien Azelli, Anne-Sophie Pierry et Chloé Bousquet, avec aujourd'hui la technique Martin Delafosse, Philippe Mercher et Sacha Tropp. Merci au public du Studio 105 et à la semaine prochaine, à la même heure sur cette même chaîne, pour une nouvelle édition de L'Esprit public.